Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Aujourd'hui, avec le roman intitulé « Moi, un lemming », l'émission Impromptu littéraire vous fait plonger au cœur du monde animal. Nous irons à la rencontre des lemmings, ces petits mammifères rongeurs d'Europe du Nord, dont une légende affirme qu'ils accompliraient régulièrement un suicide collectif rituel en se jetant dans l'océan du haut des falaises. À travers ce petit roman philosophique destiné à la jeunesse, publié en 1976, l'auteur états-unien Alan Arkin pose les questions très humaines de tradition, d'habitude culturelle, de suivi du groupe, d'embrigadement, mais aussi les résistances à ces embrigadements à travers le libre choix et l'esprit critique. Une bien belle allégorie. Avec les voix de Marie-Paul, Jean, Patrick et Paul et Claude Michel à la technique.
Le soleil se répandit dans le terrier, atteignit le sol, grimpa lentement le mur et vint s'immobiliser sur la figure de Bubber. Il s'éveilla en sursaut dès qu'il le frôla. Bubber se redressa, plein de joie anticipée, prêt à foncer. Il avait quelque chose d'important à faire ce jour-là, mais quoi au juste? Il ne s'en souvenait plus. Rien ne lui revenait. Sarah, la sœur de Bubber, se trouvait à l'autre bout de la chambre, triant des piles de vêtements, entassant les listes sempiternelles qu'elle ne cessait de dresser.
« C'est aujourd'hui ?» demanda impatiemment Bubber en clignant des yeux dans la lumière éblouissante. « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?»
Sarah interrompit son travail et poussa un profond soupir théâtral, faisant ainsi comprendre à son frère quel fardeau il représentait pour elle.
« Allez quoi ?» dit Bubber. « Dis-le-moi, pas la peine de faire une scène pour tout et n'importe quoi. »
Sarah lui sourit comme à un demeuré et fit lentement un grand arc avec son bras.
« Ah oui !» s'exclama Bubber en se frappant le front avec la patte.
« Tu as compris ?»«
J'ai compris, » répondit Bubber en sautant du lit.
« Tu n'oublieras pas maintenant ?» dit sarcastiquement Sarah.
« Je n'oublierai pas. »
Il se secoua pour se réveiller et passa dans la salle de séjour, prête à agir. Ses parents, debout depuis une heure, étaient l'illustration parfaite de l'agitation qui consiste à ranger et à faire des préparatifs. Leur activité se déployait de façon anarchique. Son père mettait des choses en ordre et reculait pour juger du résultat. Sa mère nettoyait et époussetait des objets, puis époussetaient de nouveau les mêmes objets. Ils se parlaient tout bas, mais avec intensité.
« Ah, Boober, Boober !» s'écria son père, levant un bras en guise de salutation.
Il garda le bras en l'air, comme s'il allait poursuivre, mais une longue habitude de n'avoir rien à dire à son fils le figea dans une attitude de salut.
« Je peux être utile à quelque chose ?» interrogea Boober en se demandant combien de temps son père allait garder le bras en l'air.
« Non, non, nous venons juste de... » fit-il, laissant sa phrase en suspens, incapable de trouver la suite.
Alors il déplaça une pile de magazines pour la poser juste à l'endroit où elle se trouvait 5 minutes auparavant. La mère de Boober était en train de se parler calmement, une vieille habitude. Elle se disait exactement ce qu'elle allait faire ensuite. Boober détestait l'interrompre, surtout ce jour-là. Les ordres qu'elle se donnait semblaient si terriblement urgents. Alors il se prépara un petit déjeuner rapide et s'apprêta à quitter le terrier avec un long sac à la patte.
« Où vas-tu avec ce long sac ?» demanda son père vivement.
Il n'y avait jamais qu'un seul endroit où Boober se rendait avec un sac, mais il répondit patiemment
« Je vais sur la colline au Milan une dernière fois. »«
Qu'est-ce qui se passe là-haut ?» interrogea son père. « Pourquoi y vas-tu tout le temps ?»«
Pour y chercher des tas de choses, » répondit Boober. « Du trèfle, par exemple. C'est le seul trèfle qu'il y ait dans les environs. Il n'y a rien à manger par ici. »«
C'est tout ?» demanda le père de Boober. « Seulement du trèfle ?»«
Seulement du trèfle. »«
Eh bien, pourquoi n'en cueilles-tu pas une grande brassée ? Nous en donnerions ainsi un peu autour de nous. Va chercher oncle Claude et toute la bande. »
Boober marmonna en signe d'assentiment et quitta le terrier en traînant le sac derrière lui. La plaine que traversait le chemin de la colline au Milan grouillait habituellement d'activité. Des lemmings s'affairant à la recherche de nourriture, papotant, se battant ou troquant des graines contre de la paille. Mais ce matin, la plaine était calme et vide. Boober nota cette absence d'activité et fut pris d'un pressentiment. Ce n'était pas le silence doux de la colline au Milan, mais un silence épais et vert. La même sorte d'atmosphère qui se manifeste avant un violent orage. Ce qui se passait chez Boober se passait sans nul doute partout ailleurs dans tous les terriers, enfouis profondément dans le sol. Boober percevait presque le bourdonnement sourd émanant de la terre tandis qu'il cheminait. Il grimpa la colline au Milan, sac à la main. La colline était un de ses lieux favoris. Le trèfle y abondait encore au sommet, mais cet endroit étant exposé, peu de lemmings s'y aventuraient. À l'occasion, de grands oiseaux fréquentaient la colline, éloignant ainsi les lemmings. Boober ne se jugeait pas particulièrement courageux, mais pour une raison obscure, étrangère à la cueillette du trèfle, il se sentait attiré par la colline, et les oiseaux ne l'effrayaient pas. D'amitié avec quelques corbeaux, qu'ils trouvaient, en dépit de leur hystérie occasionnelle, intéressants et réfléchis en tant que groupe. Ils comptaient même un ami intime parmi eux, qu'il appelait Corbeau. Lorsque Boober arriva au sommet de la colline, il trouva son ami installé, observant silencieusement la morne plaine.
Lemming, dit Corbeau, en guise de salutation.
Corbeau, fit Boober.
Corbeau avait des difficultés à regarder Boober en face. Son œil se fixa sur lui un instant, puis revint vers la plaine.
« Calme là-dessous, » dit-il prudemment.
« murmura Boober.
Il cueillit au hasard un peu de trèfle et se mit à en mâchonner.
« Qu'est-ce qui se passe en bas ?» demanda Corbeau.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?» fit Boober.
« Il n'y a personne dans les parages. Où sont-ils tous passés ?»«
Ils s'apprêtent. » dit Boober tranquillement.
« Il s'apprête.
» commenta Boober.
« Il s'apprête à quoi ?» interrogea Corbeau.
« Eh bien, c'est notre heure, » répondit Boober avec un léger gloussement. « Nous allons partir vers l'ouest. »«
Partir vers l'ouest, » s'enquit Corbeau.
« Exactement. »
Corbeau songea à ce départ vers l'ouest. Il connaissait la plupart des activités qui avaient lieu sur la plaine, mais cette information était nouvelle pour lui.
Partir vers l'ouest, tu dis ? Répéta-t-il.
Partir vers l'ouest, confirma Bobber.
À l'ouest de la plaine, à environ 1 kilomètre, se trouvaient les falaises du Maur, puis la mer. 6 000 kilomètres de pleine mer.
Vous allez aux falaises, c'est ça ? Demanda Corbeau.
Oui, répondit Bobber.
C'est pourquoi ? Un pique-nique ? Une sorte de fête ?
Je ne sais pas comment appeler ça, c'est notre heure, voilà tout.
Corbeau trouva la réponse un peu évasive. Quelque chose lui semblait louche.
Qu'allez-vous faire ? Vous promenez toute la journée là-bas ? Demanda-t-il.
Non, nous ne faisons que passer, dit Bobber.
Je vois.
Corbeau attendit quelques éclaircissements, mais en vain.
Vous continuez vers l'ouest, en somme ?
C'est ça.
Tout droit vers les falaises du Maur, que vous franchirez ?
C'est ça, confirma encore Bobber.
Tout droit vers l'ouest, dans l'océan ?
Quelque chose comme ça, dit Bobber.
Dit Corbeau.
Il resta songeur un moment, gloussa, secoua la tête et gratta le sol. Bobber ouvrit son sac et s'apprêta à quitter Corbeau. Mais celui-ci l'arrêta avec sa serre.
Attends.
Qu'y a-t-il ? Interrogea Bobber, choqué par le geste brusque de Corbeau.
Mettons cette chose au point, dit Corbeau.
Je ne vois pas ce que tu veux dire, fit Bobber.
Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.
Comment ça ? Demanda Bobber.
Maintenant, juste une minute, dit Corbeau en plissant les yeux vers le ciel pour rassembler ses idées. Organisons-nous un instant.
Il faut que je cueille du trèfle, déclara Bobber en s'apprêtant une nouvelle fois à partir.
Corbeau l'arrêta encore.
Accorde-moi juste une minute.
Bobber obéit à contre-cœur.
Bon. Maintenant, poursuivit Corbeau, qui est ce « nous » qui va faire ce voyage ?
Nous tous.
Nous qui ? Dit Corbeau. Moi, je vais nulle part.
Non, non, répondit Bobber avec impatience. Tous les lemmings, seulement les lemmings.
Alors quoi ? Insista Corbeau, toujours insatisfait. Vous allez aux falaises, vous sautez dans l'océan, vous nagez un peu et ensuite...
On ne sait pas, dit Bobber, de plus en plus impatient.
L'interrogatoire commençait à le mettre mal à l'aise. Jusque-là, il avait pris ce voyage comme allant de soi. Les lemmings faisaient quelque chose. Il était un lemming.
Tu sais nager ? Lui demanda Corbeau.
Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé, répondit Bobber, feignant l'indifférence.
Je vois. Eh bien, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer d'abord. Qu'en penses-tu ? C'est que ça fait beaucoup d'eau là-bas. T'as déjà vu l'océan ?
Non, je ne vais pas beaucoup par là, admit Bobber.
Eh ben, vas-y faire un petit tour, tu verras. Enfin quoi, il y a des masses d'eau là-bas. Tu as le temps ? Je peux t'y emmener d'un coup d'aile, jeter un coup d'œil et te ramener ici en 10 minutes.
Je crois qu'il vaut mieux pas, dit Bobber.
L'idée de voir l'océan ne lui était jamais venue. Et sa réalité, la pensée qu'un océan puisse vraiment exister, une énorme étendue d'eau sans fond, continuait de le mettre mal à l'aise.
Bon, alors que dirais-tu d'une trempette dans un étang ? Demanda Corbeau. Essaye d'abord. Il y en a un à environ 4 kilomètres à l'est. Je peux t'y amener vite fait.
Non, dit Bobber.
Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de l'eau ? Interrogea Corbeau. L'idée d'être immergé te remplit-elle d'une joie quelconque ?
Pas particulièrement.
Tu n'as jamais été dans l'eau jusqu'au cou ?
Non, dit Bobber.
Il tira sur son sac que Corbeau retenait toujours avec sa serre.
Je ne peux pas parler plus longtemps. Il faut que je redescende pour aider.
Tu n'as jamais eu un ami ou un parent qui ait été dans l'eau ? Demanda Corbeau.
Non.
Ça ne te paraît pas un peu étrange ? Demanda Corbeau avec force. Ça ne te semble pas un peu bizarre ?
Laisse-moi tranquille, cria Bobber en faisant volte-face. Occupe-toi de tes affaires.
Corbeau rejeta la tête en arrière comme si on l'avait mordu. Il y eut un silence embarrassé. Puis Bobber s'éloigna et se mit à cueillir du trèfle et à le fourrer dans son sac.
Je suis désolé, dit Corbeau.
Ça ne fait rien, dit Bobber.
J'ai dépassé les bornes, dit Corbeau.
Oublions ça.
C'est que je m'intéresse au comportement animal, dit Corbeau. Si on garde les oreilles et les yeux ouverts, on entend un tas de choses singulières. Et puis, je ne sais pas, quelquefois je suis surexcité. Je pose des tas de questions et je dépasse les bornes. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je vois ce que tu veux dire, répondit Bobber.
Il y avait dans sa voix une raideur plus éloquente qu'un discours.
C'est fini, pensa Corbeau avec quelque amertume. Il avait déchiré ce qui s'était tissé entre eux. Aucun moyen de raccommoder. Ce ne serait plus jamais pareil. Corbeau respira profondément et s'éclaircit la gorge. Adieu, Lemming, fit-il cérémonieusement.
Adieu, dit Bobber.
Corbeau partit à tire-d'aile.
Écris-moi un de ces jours, cria-t-il par-dessus son épaule, dans une dernière tentative pour dénouer la situation. Mais il savait que cela ne servirait à rien.
Bobber arrachait le trèfle, pestant contre la brusquerie de Corbeau. Des animaux différents fonctionnaient de façon différente. Chaque espèce était traversée de courants profonds et mystérieux qui étaient censés être respectés. Comment Corbeau osait-il se moquer ou même remettre en question une fonction des lemmings ? Bobber, en rage, finit de cueillir le trèfle et redescendit la colline. Son humeur ne le prédisposait pas du tout à partager le trèfle, ni à s'accorder à la nervosité qui se créait sous terre parmi les lemmings, partout dans la grande plaine. À la maison, les parents de Bobber essayaient activement de décider de ce qu'il fallait emporter ou laisser. Mais n'étant pas sûrs du lieu où ils allaient et ne sachant pas combien de temps ils s'absentaient, la tâche n'était pas facile. Bobber entra en coup de vent dans la maison et jeta le sac de trèfle par terre au milieu de la pièce.
« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda son père.
« Corbeau, » répondit Bobber. Il m'a énervé. Il a dépassé les bornes.
C'est ce qu'ils font, ils sont connus pour ça.
Mais il ne l'a jamais fait avant, dit Bobber.
Ne perds pas ton temps avec un corbeau.
Je suis tout retourné, dit Bobber en s'affalant sur un fauteuil pour essayer de se détendre. Il m'a mis les nerfs à vif.
Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a plus ou moins insinué que les lemmings ne savent pas nager, dit Bobber avec hésitation.
C'est ça qu'il a dit ?
Monsieur Lemming gloussa et regarda sa femme qui gloussa aussi. Tu imagines ? Dit Madame Lemming.
J'espère que tu lui as dit son fait, dit Monsieur Lemming.
Eh bien, j'ai crié après lui. Puis je me suis rendu compte d'une chose. J'ignore si nous savons nager ou non. Alors, ça m'a un peu énervé.
C'est exactement ce dont sont capables les corbeaux, dit Monsieur Lemming avec force. « Tu te rends compte ?» demanda-t-il à sa femme. « Et un jour comme aujourd'hui ?»«
C'est quelque chose, » répondit-elle fermement. « C'est vraiment quelque chose. »«
On ne peut plus rien dire à personne, » dit Monsieur Lemming.
« Ça, c'est bien vrai, » approuva sa femme.
« À mon avis, si tu veux mon avis, » dit Monsieur Lemming, « laisse tomber les corbeaux. »« C'est mon avis. » Il se tourna vers sa fille. « Sarah !» Cours donc chez oncle Claude et dis à tout le monde de venir ici partager le festin rapporté par Bobber.
J'y vais, dit Bobber, heureux de trouver une excuse pour sortir.
Il partit en courant, se sentant quelque peu soulagé. Mais en chemin, il s'avisa que son père n'avait rien dit de précis. Bobber avait été conforté par son attitude, mais quant à savoir si les lemmings savaient nager ou non, La question restait entière. À mi-chemin, Bubber tomba nez à nez avec Arnold, un cas tragique de la région. Arnold avait été fort dans sa jeunesse. Il avait jadis sauvé la ville d'un lynx en maraude en le tuant d'une seule main. Il devint un héros et pendant un temps s'enivra des flatteries de ses semblables. Les années s'écoulèrent cependant et l'unique laurier sur lequel se reposait Arnold finit par s'user. À la consternation de chacun, il continua de se reposer dessus. Les parents de Bubber le regardaient de travers. Mais Bubber trouvait, et beaucoup de ses amis avec lui, qu'Arnold était plus amusant à fréquenter que la plupart des adultes du coin.
« Ouais, neuf !» demanda Arnold en voyant Bubber approcher.
« Pas grand-chose, » dit Bubber. « Je suis un peu agacé par cette chose aujourd'hui, c'est tout. »«
Quelle chose aujourd'hui ?»
Bubber regarda Arnold, incrédule.
« Cette chose aujourd'hui, dit-il, c'est à faire ce que nous faisons. »
Il décrivit le même arc de cercle que celui fait par Sarah. Il attendit la réaction d'Arnold, mais rien ne vint.
« Le saut dans la mer, Arnold. »«
Ah oui, le saut !» répéta Arnold sans grand intérêt.
« Ça va être comment, d'après vous ?»«
Comment le saurais-je ? » dit Arnold en regardant Bubber complètement indifférent.
« Vous voulez dire que vous n'y avez pas pensé ?» demanda Bubber quelque peu intimidé.
« Oui, » assura Arnold, irradiant la paix, le calme et le dédain.
« Je ne sais pas comment vous faites, » dit Bubber, qui s'assit près d'Arnold en tâchant d'irradier la paix, le calme et le dédain.
Il sortit son ventre et voila son regard, mais il se sentait toujours à cran.
« Comment faites-vous, Arnold ?»«
Je ne sais pas. » Tu épouses en quelque sorte les événements à mesure qu'ils se produisent.
C'est pas facile.
C'est pourtant la seule façon de faire son chemin.
Vous avez raison, dit Bubber. Et j'essaie de vivre de cette façon. Quand je me suis réveillé ce matin, j'avais même oublié ce qui allait se passer. Mais je suis monté à la colline au Milan et j'ai parlé à cet abruti de corbeau. Il m'a demandé si les lemmings savaient nager. Et je n'ai pas... quoi répondre, et ça m'a énervé.
« Ah oui ?» fit Arnold nonchalamment.
« Oui, » dit Bubber. « Et en fait, si vous voulez savoir la vérité, je ne crois pas que nous sachions nager, moi en tout cas. »
Arnold fixa le lointain un long moment, puis se tourna lentement vers Bubber.
« Comment sais-tu que tu ne sais pas nager ?» demanda-t-il finalement.
Bubber réfléchit un instant.
« Je ne sais pas comment je sais. » « Simplement, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais vu un lemming nager. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit parler de natation. »«
Alors, qu'est-ce que ça prouve ?» demanda Arnold d'un air supérieur.
« Comment ça, qu'est-ce que ça prouve ?»«
Qu'est-ce que ça prouve ? Qu'est-ce que ça prouve ?» répéta Arnold d'un ton un peu hargneux. « Tu n'as jamais vu un lemming nager. Peut-être qu'aucun d'eux n'en avait jamais éprouvé l'envie. »
« Comment se fait-il qu'on l'éprouve aujourd'hui ?» demanda Bubber.
« Peut-être que l'envie nous prend maintenant, » dit Arnold. « Marquons aisément un point. »«
Ainsi, vous pensez que nous savons nager ?» demanda Bubber plein d'espoir.
« Je n'ai pas dit ça. »«
Vous avez dit que peut-être l'envie nous en prenait maintenant. »«
Peut-être que ben oui, peut-être que non. »
Bubber hocha la tête.
« Je n'ai jamais vu la chose sous cet angle-là, » dit-il.
« La seule chose que je sache est celle-ci. Pourquoi diable ? Qui que ce soit sauterait-il dans l'océan s'il ne savait pas nager ?» dit Arnold avec autorité. « Et une autre chose aussi, on ne doit pas traverser un pont avant d'y arriver. »«
C'est ma foi vrai, » dit Bubber. « Mais je peux rétorquer, regardez où vous mettez les pieds. »«
C'est vrai aussi. » dit Arnold.
Ses yeux se voilèrent dans son effort pour finir la discussion. Il tapota le bras de Bubber, se pencha et d'un ton de conspirateur déclara
« Écoute, fiston, je n'en sais fichtre rien. »
Il cracha à une énorme distance et le sujet fut clos. Les sentiments de Bubber pour Arnold se mitigèrent. Il regarda longtemps et fixement son ami et un soupçon s'insinua dans son esprit. Arnold s'avérait être un idiot, et l'aisance nonchalante qu'il avait admirée n'était rien d'autre que de la veulerie. À sa grande surprise, Bubber se sentit libéré au lieu de se sentir coupable. Il se leva et s'étira.
Un de ces jours, Arnold.
Un de ces jours.
Bubber courut chez oncle Claude. Il trouva, en y arrivant, la même confusion que chez lui. Ses cousins Floyd et Marco se battaient pour un œuf, sa tante Mattie pleurait silencieusement, et oncle Claude faisait un sermon qui consistait à dire que le temps de l'union et de l'altruisme était venu. Lorsque Bubber transmit l'invitation, ils semblèrent tous soulagés à l'idée d'avoir quelque chose à faire et se mirent immédiatement en route avec Bubber.
Qu'est-ce que c'est ce truc de l'Ouest ? En fait, nous allons sauter dans l'océan. Les falaises du Moor sont abruptes jusqu'en bas. Il n'y a pas de plage du tout, nous ne savons pas nager. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Assieds-toi, fiston.
Bubber s'assit. Claude s'accroupit lentement sur son arrière-train.
Ce sont de grands événements qui ont lieu aujourd'hui, fiston. Des événements authentiques. Alors ne fais pas de difficultés, ça risque seulement de gâter les choses pour tout le monde.
Je crois que je deviens fou, dit Bubber.
Ridicule, dit oncle Claude. Tu poses seulement des tas de questions idiotes. Laisse-toi aller.
Je sais pas ce qui se passe, dit Bubber.
Il empoigna son oncle avec ses deux pattes et ne le lâcha pas. Claude se dégagea.
Bats les pattes, fit-il irrité. Ça n'avancera à rien. C'est de la folie.
« Je suis désolé, » dit Bubber, essayant de se maîtriser. « Je ne sais pas ce qui se passe. »«
Calme-toi seulement et je te remettrai sur les rails. Reprends-toi énergiquement. »«
Je vais essayer, » dit Bubber en s'accroupissant, tendu.
« Bon, » dit Claude en rassemblant ses idées. « Voici la situation. Nous sommes des lemmings, nous sommes des mammifères et nous sommes des animaux. Disons la vérité. Comme tous les animaux... Nous avons des points faibles. Des animaux différents ont des dispositions particulières différentes. Celui-ci fait telle chose étrange, celui-là fait telle autre chose, etc. et ainsi de suite. En un mot, toute l'affaire se résume au fait que les lemmings se rassemblent de temps en temps et sautent dans la Grande Bleue. C'est notre petite particularité. Tu me suis ?
Il observa une pause, attendant un signe quelconque de Bubber qui reste à quoi. Oncle Claude continua.
Le problème dans ce genre de questions est qu'on ne peut pas en faire une affaire personnelle. Nous agissons de la sorte, nous sommes ainsi et c'est tout. Si on commence à se faire de la bile pour ça, on ne fait que jouer les rabat-joie pour tout le monde. N'en fais pas tout un plat.
Est-ce que les lemmings savent nager dans sa Bubber ?
Bonne question, dit Claude. En fait, nul ne sait si nous savons nager ou non. Mais nous espérons que oui. Après tout, nous sommes environ 4 millions. Je ne pense pas que nous sauterions tous dans la Grande Bleue si nous ne savions pas nager.
Il attendit de nouveau un signe de Bubber. Rien ne vint.
De toute façon, poursuivit-il, selon moi, le saut n'est que le premier pas.
Quel est le second ? Demanda Bubber sans trop d'espoir.
« L'Ouest !» dit oncle Claude avec un geste de tragédien en pointant dans la mauvaise direction. « Le second pas, c'est l'Ouest !»«
Et quand se fera-t-il » demanda Bubber.
« Quand se fera quoi ?» demanda Claude, tellement pris par son envolée d'éloquence qu'il avait oublié de quoi il parlait.
Ce saut, cette affaire, répéta Bobber.
Cet après-midi.
À quelle heure?
Personne ne sait l'heure exacte.
Alors, comment saurons-nous le moment auquel nous sommes censés le faire?
Personne ne sait cela non plus. Il est seulement admis que la chose deviendra évidente à un moment donné, et ce sera l'heure du saut, dit Claude.
Il poussa un profond soupir et frappa le sol du pied, attendant que Bobber se reprenne. Au bout d'un moment, celui-ci se leva et s'achemina lentement vers la maison de ses parents. Oncle Claude suivit. La plaine était toujours déserte. Un lemming solitaire jaillit d'un terrier, courut une courte distance et disparut dans un autre trou. Cette silhouette ne fit qu'intensifier l'étrange désolation de la plaine ce jour-là. Cela fit froid dans le dos de Bobber qui frissonna.
« Il n'y a personne, » dit-il.
« dit oncle Claude. »
« Ça ne te semble pas bizarre ?» demanda Bobber.
Claude s'arrêta et pour la première fois remarqua que la plaine était en effet déserte.
« Je savais bien qu'il y avait quelque chose de curieux, » dit-il.
« N'est-ce pas bizarre ?» demanda Bobber.
« Je ne sais pas, » dit Claude. Il resta immobile, s'imprégnant de ce silence inhabituel. « En fait, c'est assez plaisant, » ajouta-t-il, paisible.
Bobber scruta le visage de son oncle pour y déceler une quelconque faille, un soupçon d'humour, une trace d'anxiété, quelque chose. Mais son visage n'offrait qu'un masque.
« Savons-nous nager ? » demanda-t-il faiblement. « Avons-nous jamais su nager ? C'est ça la blague ? » ?»«
Il n'y a pas de blague, fiston. Pas de blague du tout. »
Il regarda longtemps son neveu avec insistance et sentit monter en lui une grande pitié pour ce parent raté. Il se souvint du temps où lui-même avait posé des questions. Comme chez tous ceux de son espèce, la curiosité lui était passée en vieillissant, pour finalement se transformer en une acceptation désenchantée de lui-même et de la condition des siens. Cela ne l'avait pas exactement empli de paix ou de joie, mais il y avait d'autres choses dans la vie. Un sentiment de solidarité avec sa race, une croyance tenace en l'avenir et un semblant d'ordre. Voyant la confusion de Bobber, sa panique et son isolement, il était sûr à présent que son chemin à lui était le bon. Bobber soutint le regard de son oncle et ce qu'il y vit était quelque chose de vieux, perdu, usé. Plus guère un parent, ni qui que ce fût avec qui communiquer. Il fit demi-tour et s'éloigna en courant.
Vous trouverez la suite et le dénouement de ce très beau conte philosophique dans toutes les bonnes librairies. Moi, un lemming, d'Alan Arkin. Merci à tous et à très bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Écoute seule dans ton coin. Je sais que je suis